Soumaïlou Boubaï Maïga, bonjour.
Bonjour madame.
Un accord a donc été signé vendredi à Bamako, mais sans les principaux groupes rebelles qui dénoncent une signature unilatérale. S'agit-il selon vous d'une avancée ou bien d'un coup d'épée dans l'eau?
Oh, c'est quand même une avancée, vous savez. Toutes les parties prenantes ont paraffé l'accord. Il y en a qui ne l'ont pas signé, mais ils l'ont paraffé. Ça veut dire qu'il reste ouvert à la discussion. Du reste, je pense que le gouvernement malien, comme les autres partis, ont dit que l'accord restait ouvert à la signature de ceux qui ne l'ont pas encore fait, à condition toutefois que cette disponibilité-là ne se traduise pas par le renforcement d'une partition de fait du pays et par la prise en otage du processus de paix par un groupe ou un autre. Il va falloir créer un rapport de force politique et militaires sur le terrain pour pouvoir avancer, ça c'est sûr.
Mais de quelle manière? Ça veut dire qu'il faut fixer un délai, par exemple, au-delà duquel il sera plus possible de signer?
Ah, je ne sais pas comment les diplomates vont faire, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que les partis qui ont signé vont maintenant faire. Et ce qu'ils doivent faire, je crois, c'est de voir comment joindre leurs forces sur le terrain de manière à marginaliser les éléments radicaux, quoi.
Pensez-vous, comme votre compatriote, l'opposant malien Thiébilé Dramé, qu'il faille engager des discussions avec les djihadistes si l'on veut rétablir durablement la sécurité dans le pays?
On ne peut pas se rallier à leurs conditions. S'il s'agit des djihadistes ou bien de ceux qui ont parti liés avec les groupes terroristes, qui de manière fondamentale sont opposés à la stabilité du pays, mais la seule manière de pouvoir les rallier, c'est de créer une situation de rapport de force qui leur soit totalement défavorable. Mais je ne vois pas du tout qu'on pourrait faire autrement.
Donc une réponse sur le terrain militaire?
Sur le terrain, oui, comme vous dites.
Vous êtes depuis quelques semaines à la tête d'un groupe d'experts de l'Union africaine chargé de lutter contre le terrorisme sur le continent. Pour cela, je crois que vous allez vous rendre prochainement en Algérie, où se trouve le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, un centre qui était censé incarner la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Force est de constater que ça n'a pas marché. Pour quelles raisons, selon vous?
Nous avons une situation qui s'est amplifiée au fur et à mesure des années et qui a fini par peut-être dépasser les capacités initiales qui avaient été mises en place. On a une menace qui s'est quand même beaucoup sédimentée, qui s'est structurée. On a vu que même dans le cadre du nord du Mali, où les groupes qui avaient été vaincus se sont reconstitués sous des formes nouvelles, parce que tous ces groupes ont une capacité de résilience qu'on n'avait pas soupçonnée. Il restait encore de nombreux défis à relever, non seulement au plan opérationnel, mais aussi au plan politique et juridique. Par exemple, un certain nombre d'instruments, pour le moment, il n'y a pas le tiers des États qui ont ratifié, même s'ils ont adopté les résolutions. Donc là, il va falloir sensibiliser les États.
Quels sont ces outils et comment faire pour qu'il ne reste pas des coquilles vides?
Bon, par exemple, il y a les résolutions relatives au mandat d'arrêt ne sont pas ratifiées dans beaucoup de cas. Les résolutions relatives aux politiques nationales de lutte contre le terrorisme, souvent les lois ont été prises, mais n'ont pas toujours été ratifiées, et les instruments qui doivent suivre n'ont pas été mis en place. Alors, il va falloir justement que chacun puisse jouer son rôle. Si les États eux-mêmes, au plan national, n'ont pas suffisamment développé leurs capacités et leurs politiques, la coordination devient extrêmement difficile à l'échelle régionale.
Et parmi ces outils que vous voulez mettre en place, il y a ce mandat d'arrêt africain. Pourquoi est-ce un outil important selon vous?
C'est pour que, au niveau des États, l'aspect judiciaire soit réellement pris en compte, parce que dans la lutte contre le terrorisme, les terroristes qui sont jugés et condamnés sont rarement revendiqués par leurs organisations mères. Mais chaque fois qu'ils sont simplement détenus, ils deviennent des monnaies d'échange. Et cela peut porter atteinte à la lutte globale qui est menée, parce que tous les efforts déployés pour les arrêter deviennent vains.
L'absence de réponse judiciaire, hein, si je vous comprends bien, entretient le phénomène.
Contribuer à l'entretenir, c'est un maillon qui manque. Mais ce n'est qu'un des maillons parmi d'autres. Il y a l'aspect sur le financement du terrorisme, qui passe par des canaux très divers. On se rend compte que dans beaucoup de nos pays, les réglementations adoptées au niveau des États en matière bancaire ne sont pas toujours respectées par les différents établissements et qu'il y a beaucoup de transactions financières qui sont à la limite du licite, quoi.
Il y a pas assez de contrôle de la part des États.
Voilà,
sur ça.
Exactement. Il n'y a pas assez de contrôle toujours. Et alors, beaucoup mettent l'accent sur la lutte et oublient souvent une phase importante qui est la prévention. Donc là également, il va falloir de sensibiliser les États.
Ça signifie quoi, la prévention?
Bon, je vous prends un cas simple. Nos États ne peuvent pas ne pas s'impliquer dans la gestion du champ religieux. qui sert de vecteur malheureusement en grande partie à cette menace-là. Dans tous les villages, là où vous n'avez pas d'école, vous avez toujours une mosquée. Et on n'a pas de visibilité sur le profil des personnes qui animent ces mosquées. Quel est le contenu des messages qui sont diffusés?
Donc vous pensez que certains États devraient mieux contrôler la pratique religieuse dans leur pays?
Ah, mais tout le monde, pour que les lieux de culte ne deviennent pas à partir desquels des messages de radicalisation ou de déstabilisation sont diffusés.
Soumaïlou Boubaï Maïga, merci beaucoup.